partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'évoquer les Franco-Américains avec une spécialiste mondiale des Franco-Américains qui s'appelle Louise Péloquin. Alors, qui est Louise Péloquin ? Beaucoup de personnes la connaissent, bien entendu, pour ceux qui s'intéressent à la Nouvelle-Angleterre et aux Franco-Américains. Mais je préciserai qu'elle est elle-même américaine, franco-américaine, de nationalité française depuis 1997. C'est une femme qui est docteure en linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté, Besançon. Elle a eu son doctorat en 1981 et un PhD en didactique et enseignement de langues étrangères à Middlebury College, Vermont, aux États-Unis en 1985, qui est un excellent collège. Spécialiste de l'enseignement de l'anglais langue étrangère, ESL, et du français langue étrangère, FLE. J'ajoute que Mme Louise Péloquin est maître de conférence à Sciences Po Paris depuis 1991, formateur en anglais au ministère des Affaires étrangères depuis 2005, et auteur de deux livres, d'ailleurs je crois un peu plus que cela d'ailleurs, sur les Franco-Américains de Nouvelle-Angleterre et de nombreux travaux sociolinguistiques publiés en France, au Canada et aux États-Unis. C'est une conférencière émérite sur la francophonie en Amérique du Nord qui a été nommée en 2007 chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Alors, ma chère Louise Péloquin, avant de vous poser la première question, je dois dire que vous comme moi, nous sommes les élèves d'un grand professeur qui s'appelle le professeur Auguste Viat et qui a été le spécialiste, le grand spécialiste, je pense, de la francophonie nord-américaine, pour ne pas parler de la francophonie mondiale, auteur de livres absolument exceptionnels comme l'histoire de l'Amérique française, comme la francophonie chez Larousse et comme bien d'autres ouvrages tout à fait éblouissants de qualité stylistique, etc. Alors, cher Louise Péloquin, racontez-nous un peu cette histoire des Franco-Américains. Quand commence-t-elle, cette histoire ?
Oui, et avant de commencer cela, je voudrais dire un petit mot au sujet de M. Viat, que j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de connaître. C'est l'une des premières personnes qui a vraiment légitimisé les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre et fait connaître les Franco-Américains, leur histoire et leur littérature, parce qu'il a suivi des thésards il y a 50 ans à peu près, qui ont fait des études sur la littérature franco-américaine. Et si cette émission intéresse les auditeurs, peut-être que nous pourrions en parler une autre fois.
Ah, c'est une excellente idée et vous avez raison de rappeler le talent, la connaissance, le formidable savant qu'était Auguste Viat. Et c'est vrai que dans son livre de, je crois que c'était 1954, si ma mémoire est exacte, publié conjointement aux presses universitaires Laval et aux presses universitaires de France, Auguste Viat donnait un chapitre absolument éblouissant sur la franco-américanie et notamment sur la Nouvelle-Angleterre, sans même parler de la Louisiane, il va sans dire. Oui, alors, cette histoire des franco-américains, cher Louise Péloquin, elle commence quand ?
Alors, les Franco-Américains sont des descendants de Québécois, de Canadiens français, parce qu'on n'utilisait pas le terme Québécois au milieu du 19e siècle, des Canadiens français du Québec et de la Nouvelle-Écosse, l'ancienne Acadie,
ah oui,
qui sont venus s'installer en Nouvelle-Angleterre entre à peu près 1850 et la Seconde Guerre mondiale. Donc, à cette époque, en Nouvelle-Angleterre, il y avait l'essor de l'industrie du textile qui démarrait.
Tout à fait.
Et d'autres industries. Or, au Québec particulièrement, il y avait des problèmes économiques graves pour beaucoup de francophones qui avaient de familles nombreuses.
Curieusement, voilà. Chère Louise, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'au moment même où de nombreux, on parle même par vagues successives de 900 000 Canadiens français qui vont en Nouvelle-Angleterre, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, au même moment alors que quittent le Québec, de nombreux Irlandais s'installent au Québec, ou est-ce que je me trompe ?
Absolument, absolument, oui.
Alors, est-ce que ça voudrait dire que les uns chassent l'autre ou pas ?
Je ne crois pas que les uns chassent l'autre, mais vous connaissez très bien les problèmes socio-économiques qu'il y avait entre les anglophones et les francophones, et là, ça serait toute une autre émission de radio, donc on ne peut pas vraiment attaquer le problème même aujourd'hui. Mais puisqu'on avait un besoin de main-d'œuvre en Nouvelle-Angleterre, et quand je dis Nouvelle-Angleterre, je vais répéter pour les auditeurs que c'est un nom administratif qui inclut 6 États du nord-est des États-Unis.
Tout à fait.
Le Maine, où habitait Marguerite Yourcenar, bien sûr, elle est enterrée là.
De l'Académie française.
De l'Académie française, la première dame de l'Académie française. Donc,
nous y sommes.
Et nous l'avons adoptée, bien entendu. Donc, le Maine, le Vermont, que vous venez de mentionner, et soi-disant, c'est Samuel de Champlain lui-même, en voyant les montagnes vertes de cette région, qui a donné le nom à cet
État. Vermont.
Vermont, voilà.
Magnifique, magnifique de nous rappeler ça, chère.
Le New Hampshire.
Oui.
Le Massachusetts,
oui.
Et si vous dites Massachusetts, certains amis se moquent un peu. Vous pouvez dire ce que vous voulez parce que ce n'est ni français ni anglais, c'est un nom amérindien. Donc le Massachusetts avec la ville principale Boston, le Connecticut et le Rhode Island. Donc voilà la région qui s'appelle Nouvelle-Angleterre.
Est-ce que, je me permets de vous interrompre une seconde, est-ce que le baron de Saint-Castin vous dit quelque chose ou pas?
Ça vous dit... Non, mais oui.
Parce qu'en Acadie, non, mais c'est avant cette période, mais en Acadie, il y a eu un personnage d'ailleurs très peu connu, mais qui commence à être connu depuis quelques années, donc ça date d'il y a peu de temps, qui s'appelle le baron Saint-Castin, qui était à la fois baron français au XVIIe, XVIIIe siècle, que je ne me trompe pas, et ce baron était à la fois baron français, donc né en France, d'une famille noble, et en même temps chef amérindien, ce qui était un cas. Il tenait la frontière entre de l'Acadie, c'est-à-dire justement la frontière de l'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre, qui est plus complexe que ça en vérité.
Oui, oui.
Voilà.
C'est,
alors, revenons,
assez complexe. C'est très intéressant parce qu'il faut dire que les Français qui sont allés au Nouveau Monde ont eu des échanges avec les Amérindiens. Ils ne les ont pas massacrés. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc ce que vous avez dit est tout à fait. Contrairement à d'autres peuples que nous n'allons pas critiquer aujourd'hui, bien entendu. Mais pour retourner aux franco-américains, donc par vague migratoire, comme vous avez dit, ils sont venus travailler en Nouvelle-Angleterre avec l'idée, comme beaucoup de peuples d'immigrés, de retourner au pays natal, au pays du Canada français, pour reprendre leurs terres et tout cela. Mais en fait, beaucoup d'entre eux sont restés en Nouvelle-Angleterre. Ah. Et une chercheuse, si je puis dire, canadienne.
Vous êtes à l'Académie française, il vaut mieux dire un chercheur.
Un chercheur,
voilà.
Mais un chercheur d'âme. Qui s'appelait Yolande Lavoie, qui est québécoise, a fait une étude statistique sur les vagues migratoires venues du Québec vers la Nouvelle-Angleterre.
Oui, oui.
Et elle a, selon ses calculs, etc., elle a trouvé que si la population qui a quitté le Québec en particulier était restée là, la population francophone actuelle du Québec serait le double.
Ah oui,
donc, cela vous donne une idée de l'ampleur des vagues migratoires.
Et vous avez raison de dire cela, cher Louis Péloquin, vous avez vraiment raison, parce qu'au fond, c'est vrai qu'autour de 1850, on a l'impression, je me trompe certainement un peu à quelques années près, mais je pense que la population du Québec était autour de 900 000, etc.
Oui,
donc,
tous
ceux qui sont partis de 1850 à 1910 ou 1920, eh bien, c'est vrai que la population du Québec, qui est d'aujourd'hui, disons, de 7 millions, ou même voire un peu plus, serait aujourd'hui de 14 millions, ce qui est
absolument,
considérable.
Absolument, donc, parce qu'il y a des familles nombreuses.
On voit la perte. On voit la perte.
Une très grosse perte.
Alors, ce qui est très intéressant dans les quelques articles que vous m'avez passés, c'est de voir que on a quand même l'impression, après une période vraiment sombre, difficile, où c'est l'américanisation, puis c'est un peu logique, c'est un peu normal, même si on peut le regretter, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine renaissance en ce moment. C'est-à-dire que les toutes jeunes générations, après 3, 4, 5 générations, veulent absolument retrouver cette langue. Certains d'entre eux, pas tous, bien sûr, certains d'entre eux veulent retrouver la langue des ancêtres.
Oui.
Est-ce que vous le sentez vraiment?
Je le sens et je dois retourner un peu en arrière pour dire que quand les immigrés sont venus s'installer en Nouvelle-Angleterre, ils se sont donné le label, l'étiquette. L'étiquette franco-américaine pour montrer le lien avec la langue française au lieu de canado-américain. Pourquoi est-ce que les gens s'appellent franco-américains? Donc, je pense que ça, c'est important à signaler. Il voulait montrer le lien avec la langue et la culture du pays des ancêtres qui était la France. Parce que le Canada, c'est un pays largement anglophone pas francophone.
Disons, au moins jusqu'à Pierre-Éliott Trudeau.
Tout à fait. Exactement. Exactement. Maintenant, c'est un pays administratif bilingue.
Les deux langues officielles sont le français et l'anglais, ou l'anglais et le français.
Oui. Voilà. Mais pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même retourner en arrière et dire que ces gens-là se sont réunis et ont construit à l'intérieur des villes où ils se sont installés des petits Canadas.
Ah oui.
Donc ça, c'est absolument très important à signaler. Dans les petits Canadas, des quartiers ethniques, comme beaucoup de quartiers d'immigrés, on n'avait pas besoin de parler anglais. Ah. On a fondé à peu près 300 paroisses pour les francophones et on a fait venir des prêtres de la France et en particulier de la Bretagne.
Et cela jusqu'en quelle année à peu près?
Jusqu'à...
1850?
De 1850 à 1920-30.
Ah ouais,
mais
ouais.
Alors ça, c'est important. Des paroisses gérées par des francophones, des écoles paroissiales bilingues. Je sais que je n'ai pas 20 ans, malheureusement, mais moi-même, je suis allée à une école paroissiale bilingue.
C'est formidable.
Parce que l'enseignement respectait le ministère de l'Éducation américain, avec un certain nombre de cours en anglais, bien entendu, et un certain nombre de cours en français. Ouais. L'histoire de France, l'histoire du Canada, etc.
Vous connaissiez mieux l'histoire de France ou l'histoire du Canada? À cette époque, vous-même, quand vous avez suivi votre enseignement?
Les deux ensemble, c'était comme...
C'était lié, tricoté.
C'était tissé pour les usines.
Alors, comment expliquez-vous l'effondrement soudain de ces écoles françaises? Vous situez la période noire, si je vous suis bien, entre 1930 et 1950
Après 50-70. Alors, j'ai parlé des petits Canada, les paroisses, les écoles, les journaux, à peu près 250 journaux, nous en reparlerons.
250 journaux existaient
Existaient un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Oui.
Incroyable.
Oui, incroyable. Alors, il y a eu je n'aime pas le mot effondrement parce que, comme vous, je suis foncièrement positive.
Dynamique.
J'essaie d'être dynamique, mais pour la francophonie, c'est viscéral pour moi d'être très positive en ce qui concerne la francophonie chez nous en Nouvelle-Angleterre et dans le monde. Donc, je ne veux pas dire des choses négatives. Mais il y a eu une baisse, un effritement peut-être de la francophonie en Nouvelle-Angleterre à cause de la Seconde Guerre mondiale, premièrement.
Ah,
beaucoup de jeunes hommes ont été envoyés en France parce qu'ils parlaient français. Si vous allez aussi cimetière de Colville aujourd'hui, et si vous vous promenez dans les allées de Croix, vous allez trouver énormément de noms français.
D'origine française.
Duchesne, Bellevue, Roy, etc.
Donc,
la Seconde Guerre mondiale.
Très impressionnant.
Deuxième chose, la mobilité sociale. On voulait, avec les générations, on voulait quitter le quartier peut-être un peu plus pauvre pour aller dans les banlieues et tout cela. Troisième chose, la rénovation urbaine. Comme on voit un peu à Paris, dans certains quartiers, à Belleville et tout cela, on a rasé des immeubles un peu vétustes pour construire d'autres immeubles. Si on rase tout un quartier, la population qui était tout à fait francophone va se disperser. Et il faut dire aussi, parce que je veux être très objective, certaines personnes ne voulaient pas être perçues comme fils d'immigrés ou petits-fils d'immigrés.
Ouais. C'est la grande période quand même aussi où l'Amérique est triomphante dans le monde.
Exactement.
Donc, alors, être américain, c'est
être un Américain pur. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça, c'est une autre question. Mais comment est-ce qu'on voyait que ces gens-là n'étaient pas WASP ou d'origine leur nom?
Traduisez le WASP, c'est-à-dire...
WASP, White Anglo-Saxon Protestant.
Voilà.
Donc, blanc, anglo-saxon et protestant. Les Canadiens français, les franco-américains, étaient blancs, d'origine française, et catholiques. Alors, ils ont changé leur nom. Beaucoup de personnes ont changé leur nom pour ne pas être perçues.
Rivière, river.
River.
Bridge,
Boucher,
pont.
Bush. Mais ce n'est pas le cas du président actuel, mais bon. Bois vert, Greenwood. Bienvenue, welcome, etc. Roi, Lord, etc. Et c'est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'il faut parler d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la généalogie. Et quand ils font des recherches généalogiques, ils sont confrontés au besoin de ranimer leur langue française qui est latente en eux. Et aussi, beaucoup de personnes veulent rechanger leur nom. Donc moi, je connais, y a une famille près de chez ma mère, qui habite toujours le Massachusetts, qui s'appelait Welcome. Et le jeune homme d'une vingtaine d'années souhaite rechanger son nom à Bienvenue.
Bienvenue, donc, oui, c'est Welcome, Bienvenue.
Pour moi, parce qu'il a dit, ce n'est pas mon nom. Et donc les patronymes retournent dans certains
Vous cas. Avez été interviewé, cher Louis Pelloca, dans cette très bonne revue qui s'appelle Défense de la langue française.
Oui, oui.
Et vous avez interviewé, c'était en le premier trimestre 2004, oui. Et lorsque la question qui était de défense de la langue française disait « Outre leur pratique de notre langue au sein de leur famille, comment se marque leur attachement au français ?» Et vous répondiez « À l'heure actuelle, il existe environ 500 organisations qui s'intéressent à leurs ancêtres québécois. L'une d'elles, par exemple, s'est mise sous le patronage de Jeanne Mance. » On sait que c'est une cofondatrice de Montréal.
Exactement.
Dites-moi, c'est quand même extraordinaire.
C'est
500
extraordinaire.
Organisation.
Oui, oui. Un peu partout en
aujourd'hui,
un peu partout en Nouvelle-Angleterre et dans l'État de New York qui est limitrophe.
Ah, oui.
Si vous regardez la carte, j'invite les auditeurs de regarder une carte des États-Unis. C'est limitrophe du Canada français. Donc c'était très facile pour les gens d'avoir et de continuer à avoir des contacts avec eux.
Oui.
Et le cercle Jeanne Mance, qui est un cercle de dames à Lowell, Massachusetts, qui est la ville de Jean-Louis Kerouac,
mieux connu que Jacques Kerouac, qui s'appelait en fait Jean-Louis.
Jean-Louis Kerouac. Et sa maman l'appelait Tijan avec
Tijan.
Tijan.
C'est joli ça.
Alors le cercle Jeanne Mance a à peu près 150 membres et il y a des nouveaux membres tout le temps et chaque mois c'est dames-là organisent des activités en français et donnent des bourses pour des jeunes.
Il faudra prévenir vos amis de la Nouvelle-Angleterre d'écouter notre émission.
Tout à
parce
fait.
Que pour voir leur réaction,
je
ça sera intéressant. Ça, il faut le faire savoir.
Ah, oui.
Et n'oublions pas, revenons à Jacques Kerouac, qui est donc le fameux qui annonce la grande période de, on peut dire, de 1968, mais bien avant.
Oui, The Beat Generation.
The Beat Generation, que vous traduiriez comment en français?
Beat, ça venait du mot béatitude.
Aha.
Mais c'est double sens, béatitude vis-à-vis de la littérature et le jazz.
Ah, c'est
le jazz.
Donc battre.
Donc battre
Beat Generation, c'est très intéressant ce que vous
c'est
dites.
C'est très intéressant.
Beat Generation, nous dit Louis Pelloca, c'est à la fois battre et c'est à la fois béatitude.
Voilà.
Et n'oublions pas de Jacques Kerouac, le On the Road, c'est-à-dire sur la route. Son fameux livre qu'on trouve en livre de poche.
Oui, tout à fait. Et tous ses romans sont traduits en français. À la fin de sa vie, il était en train d'écrire un roman en français. Le manuscrit, on a retrouvé le manuscrit, on va peut-être le publier bientôt.
Ah, c'est sensationnel. Nous allons nous arrêter là pour la première partie de notre émission.
Florence Delay de l'Académie française sur Canal Académie. Elle aurait pu nous parler de civilisation hispanique ou de cinéma. Elle fut Jeanne d'Arc à l'écran. Non, elle a choisi de rendre hommage à un homme hors du commun, l'évêque Daniel Peyseril. Écoutez Florence Delay dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Je suis très heureux dans la deuxième partie de cette émission. Je me retrouve bien sûr avec mon invité qui est Louis Pelloca. Je rappelle brièvement qu'est Louis Pelloca. Elle est née à Lowell au Massachusetts et professeure, traductrice, interprète, journaliste et conférencière. Elle enseigne à la fois de Paris 9 à Dauphine, à l'École nationale supérieure des arts et métiers, et maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. C'est une femme qui est profondément américaine, franco-américaine, et qui est aussi aime énormément la France, le pays où elle vit depuis déjà bon nombre d'années.
Voilà.
Alors, chère Louise, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici, et vous rappeliez comme tout à l'heure que Marguerite Yourcenar vivait de l'Académie française, vivait dans le Maine.
Mmh.
Alors, nous allons non pas oublier Marguerite Yourcenar, mais tel n'est pas le sujet de notre émission. Que se passe-t-il ? Alors, nous arrivons cette année, en 2008, nous arrivons au 400e anniversaire de la ville de Québec, fondée par Champlain en 1608. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que cela, qu'est-ce que cela signifie ?
Mais pour les Franco-Américains de Nouvelle-Angleterre, c'est une grande fête pour nous et nous allons y participer complètement. Premièrement, je dois dire, depuis le début des sommets francophones institués par le président Mitterrand il y a déjà plus de 20 ans, les Franco-Américains sont présents, non pas comme gouvernement, parce que ce ne sont pas des gouvernements ou quoi que ce soit, mais comme observateurs. Nous sommes peut-être une petite goutte d'eau dans la francophonie, mais c'est peut-être une petite goutte qui colore la francophonie et qui lui donne une certaine saveur. Donc, les Franco-Américains vont officiellement participer au sommet francophone, donc pour la énième fois. J'ai oublié combien de sommets il y a déjà eu. Et la ville de Québec veut reconnaître officiellement ses descendants qui sont venus en Nouvelle-Angleterre en érigeant une plaque, pas une plaque,
une
mais
stèle.
Une stèle, un monument officiel à la ville de Québec qui sera dévoilé le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin prochain.
24 juin prochain. Formidable. 24 juin prochain, une date 24 à retenir.
La Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, si vous voulez, la fête du Québec. Provinciale du Québec,
du Québec.
Et qui est notre fête aussi, parce que tous les Franco-Américains de Nouvelle-Angleterre organisent des semaines franco-américaines, des semaines de la Saint-Jean au moment de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est très important pour nous. C'est notre fête.
Et vous avez raison de dire cela, parce que moi, vous le savez bien, comme vous, nous travaillons sur cette question de l'Amérique du Nord, du français en Amérique du Nord, et on s'aperçoit que sans tous ces Français francophones de l'Amérique du Nord, l'Amérique ne serait peut-être pas non plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et avec plaisir, nous nous apercevons que les Américains de langue anglaise, eux-mêmes redécouvrent le fait français en Amérique du Nord et le redécouvrent avec plaisir pour beaucoup d'entre eux.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui est assez émouvant. En un mot, ils redécouvrent ces racines françaises qui sont, si vous voulez, enterrées avant leurs propres racines, dans l'ensemble. Il faut bien le rappeler.
Oui, hein, tout à fait.
Jusqu'en 1750, la moitié du XVIIIe siècle, les deux tiers de l'Amérique du Nord actuelle étaient, je dirais, pas dominés, mais étaient investis par les Français, etc. Donc, ils avaient une connaissance concrète, réelle du territoire,
oui,
etc.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est sûr que là, il y a, pour les Franco-Américains, il y a certainement eu pas mal de blessures aussi secrètes qui ont été tues. Mais bon, aujourd'hui, ces blessures sont en grande partie dépassées parce que les Franco-Américains sont invités au sommet francophone, etc. Mais alors vous, et j'en arrive à vous-même, ma chère Louise Péloquin, votre famille a joué un rôle tout à fait important en Nouvelle-Angleterre.
Oui,
alors, racontez-nous un peu l'histoire de votre famille.
Oui, je vais raconter sur ma famille, mais je voulais dire, vous avez parlé de liens avec la France. Il faut dire qu'il y a 14 millions de personnes aux États-Unis aujourd'hui qui ont un lien avec pays francophones. C'est-à-dire, parmi leurs ancêtres, il y a une personne qui était francophone, pas seulement de la France,
Belge,
mais d'autres.
Belge,
Suisse, Haïtien, etc.
14 millions,
donc, 14 millions partout aux États-Unis, pas seulement en Nouvelle-Angleterre. Donc ça, c'est considérable. Et bon, des blessures peut-être, mais deux blessures éventuelles, on devient plus fort, je crois.
Tout à fait.
Donc, je vais parler de ma famille et je voudrais
Qui est la famille Péloquin?
Bon, Péloquin et Biron.
Et Biron,
donc,
oui.
Mes quatre grands-parents étaient du Québec. Deux grands-parents de Sorel, près de Montréal.
Oui, Sorel.
Péloquin. Et mon grand-père maternel venait de Lobinière, qui n'est pas loin, qui est sur...
Du comté de Lobinière.
Voilà, Lobinière, qui est sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, il était journaliste à Québec. Oui. Et quand il a vu...
En quelle année, ça, si, à
ça
peu près?
Ça, c'était à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je n'ai jamais connu ce grand-père-là qui s'appelait Louis-Alphonse Biron.
Formidable.
Hein? Je ne l'ai jamais connu parce qu'il avait 60 ans quand ma mère est née. Bon, alors, bon, bien sûr que je ne l'ai jamais connu, mais quand il a vu que son peuple partait en Nouvelle-Angleterre, il avait le désir missionnaire de suivre son peuple.
De les aider.
De les aider et d'aller en Nouvelle-Angleterre, fonder un journal français en Nouvelle-Angleterre. Donc, il a fait cela. Il avait deux journaux en particulier. Le plus célèbre s'appelait L'Étoile.
Ah oui, très
et
connu.
Si vous googlez cela, et c'était un barbarisme, mais si vous faites une petite recherche recherches sur Internet, vous allez trouver des pages de l'Étoile. Donc, il a fondé ce journal-là. Quand on pense à une personne qui a fondé un journal, aujourd'hui, on pense au groupe Persan ou au grand magnat de la presse. Ce n'était pas le cas. C'était un missionnaire. Il voulait servir son peuple. Il voulait instruire son peuple. Il voulait être près de son peuple. Il voulait donner un outil de lecture en français à son peuple.
Ça tirait à combien d'exemplaires à peu près?
Quelques milliers d'exemplaires.
C'est loin d'être négligeable.
C'est loin d'être négligeable. Il avait aussi une imprimerie pour faire vivre le journal.
Ah, oui.
Voilà. Donc, je voudrais dédier cette émission à mon grand-père et à M. Viat, deux grands pionniers pour les franco-américains. Ensuite, ma mère, Marthe Biron, Péloquin, a travaillé pour son père. Et c'est une dame qui a maintenant 88 ans. Donc, si elle m'écoute, je l'embrasse très fort.
Elle vous écoutera, j'en suis sûr.
J'espère, oui. Elle a voulu continuer l'œuvre de son père. Voilà. Et mon père, Péloquin, était médecin. Et il voulait aussi servir son peuple franco-américain à Lowell, justement.
À Lowell.
Et il soignait les gens en français. Il y avait toujours beaucoup de gens qui n'avaient jamais appris l'anglais dans les années 40, 50, 60. Ils étaient perdus. Donc, il les soignait. Donc, j'essaie très, très humblement, parce que je ne suis pas à la cheville de mes ancêtres, mais j'ai l'impression d'être biculturel, bicéphale, non schizophrénique, mais bicéphale.
Bicéphale, oui.
Les franco-américains ont la grande richesse d'avoir deux langues, d'avoir deux et même trois cultures. La culture française des ancêtres, la culture du Canada français. Et la culture des États-Unis, il y en a une quand même, il ne faut pas être trop négatif là-dessus.
Non, bien au contraire.
Donc, je voudrais faire connaître, et depuis 20 ans et plus que je suis en France...
Oui, vous faites un travail...
J'essaie très humblement, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, beaucoup de goût et de joie de faire connaître ces gens-là en Nouvelle-Angleterre qui ne demandent que d'être reconnus un peu par la France, pas reconnus pour des réceptions et des mondanités, mais reconnus vraiment en tant que cousins dans la francophonie. Et la francophonie, pour eux, c'est un message de communauté dans le monde, c'est un message de solidarité et voir un message de paix dans le monde. Pour nous, la francophonie, c'est un message de paix dans le monde.
Et vous m'avez fait tenir, chère Louise, un message, un courriel tout à fait intéressant qui est paru dans le numéro 128 de notre gazette. Je ne sais pas de quelle gazette il s'agit. Oui, la gazette de France-Louisiane, bien sûr. Et Louise Péloquin, sous le titre « Réinventer l'école, une idée folle », évoquait les activités de l'école française du Maine à Freeport. Depuis de longs mois, je suis en rapport suivi, je lis, avec des représentants de cette école qui vient de publier un communiqué sous le titre « Où est passé le français ?» dont vous trouverez ici après quelques extraits. Alors c'est assez extraordinaire parce que voilà ce que nous apprenons dans cet article. Aujourd'hui, environ 5% de la population du Maine parle le français à la maison, donc ce n'est pas du tout négligeable. La population du Maine, c'est combien d'habitants à peu près?
La population du Maine, 5-6 millions de personnes.
5-6 millions de personnes, donc ce n'est pas du tout négligeable. Donc ça fait, mettons, 200 à 250 000 personnes qui parlent le français dans l'État du Maine. C'est loin d'être négligeable. Donc, un État où le français est présent. Le Maine est l'État le plus français de la Nouvelle-Angleterre. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec
Puisque le tiers de sa population est de descendance française, donc ça veut dire tout de même aux ancêtres canadiens ou acadiens. Ça veut dire donc que 5 ou 6 millions, le tiers de 5 ou 6 millions est de descendance française. Donc c'est important. Et le français n'a pas toujours été ni bienvenu, ni respecté. Bon, on connaît le problème. Et la situation est différente aujourd'hui. Les descendants de la troisième et même de la quatrième génération d'immigrants canadiens ont retrouvé la fierté de leur langue d'origine. La honte de parler français a disparu et les franco-américains d'aujourd'hui cherchent à se réapproprier leur héritage. L'école française du Maine est fière d'être un acteur énergique de cette renaissance. Et afin de célébrer, je cite, le 400e anniversaire de la francophonie dans le Maine, les élèves de l'école ont écrit une pièce de théâtre. Cette pièce met en scène 60 acteurs, des costumes historiques, des musiques, des chants originaux. L'action se déroule dans le bureau d'un détective qui, en lisant son journal, découvre que le français a disparu dans le Maine. Après s'être endormi sur ses pages, il se réveille et décide de mener l'enquête pour retrouver le français. Aidé de sa secrétaire, le détective interroge tous ceux qui ont été proches du français. François Ier, Jacques Cartier, Henri IV, Samuel de Champlain, général anglais, acteur du Grand Dérangement, Lafayette, bien sûr, une famille d'émigrés du Canada, une autre famille ayant vécu dans le Maine à l'heure du Ku Klux Klan, Charles C., vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, la réponse à cette énigme vient de la secrétaire elle-même qui sait où est passé le français. Et j'ajoute que la représentation a eu bien lieu, le vendredi 2 mai à 12h30 au Franco-American Center, centre de Lewiston. Oui. Donc voilà une histoire tout à fait étonnante, oui, à fait. Ce qui prouve que les jeunes reprennent du poil de la bête et s'intéressent davantage aux Français. Etc. Est-ce que des initiatives comme ça, il y en a de nombreuses ?
Il y en a d'autres, il y en a de nombreuses, et je vais en mentionner une à Boston, qui est la ville principale de Nouvelle-Angleterre, que tout le monde connaît. Il y a un consulat de France très important à Boston. Paul Claudel était consul de France à Boston à la fin du 19e siècle. Voilà, Paul Claudel. Bon, mais c'est un centre universitaire, Harvard, Harvard University, MIT, etc. Enfin, je voulais dire que la Bibliothèque française de Boston, qui est la deuxième bibliothèque française la plus importante aux États-Unis, organise en ce moment toutes sortes d'initiatives telles que cela, avec le Club Richelieu et d'autres, le Club Jeanne Mance, et d'autres organismes, des festivités pour marquer le 400e anniversaire. Des pièces de théâtre, du cinéma, des conférences, des dîners gastronomie française, gastronomie québécoise, toutes sortes de choses. Il y a énormément de choses, il suffit de regarder. Si les auditeurs font une recherche sur franco-américain sur Google ou Yahoo, ils vont trouver beaucoup d'initiatives.
Ah oui, donc, chers amis, chers auditeurs, vous nous écoutez, vous voyez, vous regardez Google sur les franco-américains et vous allez découvrir des tas de cérémonies, d'événements, de rencontres, de retrouvailles. C'est tout à fait important. Et je rappelle ce que nous disions tout à l'heure, chère Louise, c'est qu'il existe actuellement 500 organisations qui s'intéressent aux ancêtres québécois des franco-américains. L'une d'elles, par exemple, s'est mise sous le patronage de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. Donc, c'est vous dire que partout, et alors, dans l'article, lorsque je reprends vos propres mots, ma chère Louise, il y a 3 ans, une soixantaine de femmes, c'est vous qui parlez, de cette association, se sont rendues à Langres, ville natale de Jeanne Mance. Oui. On leur a montré son acte de naissance et son baptistère. Les franco-américains en pleurèrent d'émotion.
Ah oui, tout à fait. Donc, vous voyez, vous étiez là. Je suis membre du cercle. Je suis membre à vie du cercle et j'ai aidé à organiser le voyage et tout cela avec l'association France-Louisiane également, et puis c'était très émouvant.
Voilà. Nous arrivons pour cette émission complète, un peu à la fin de notre émission. Qu'aimeriez-vous ajouter en conclusion et peut-être nous tracer quelques perspectives d'avenir, quelques souhaits, quelques désirs que peut-être même, on ne sait jamais, des mécènes peuvent nous entendre et il faut qu'ils nous entendent et puissent réaliser ce que votre cher père, votre cher grand-père ou arrière-grand-père a réalisé de façon remarquable en se mettant au service des autres, si vous voulez. Alors, quels sont ces quelques, en conclusion, que vous pourriez-vous ajouter, chère Louise Péloquin ?
Ce que je voudrais dire, premièrement, c'est qu'il y a des gens d'origine francophone en Louisiane que tout le monde connaît pour beaucoup de raisons en France, et c'est très louable. Nous sommes leurs cousins. J'invite les Français à nous connaître également. Et je voulais terminer par... dans ma thèse, j'ai cité un journaliste parisien qui est allé visiter la Nouvelle-Angleterre lors des premières vagues migratoires. Et il a écrit ceci, si vous permettez. Je cite. Alors, il s'appelait Claude Jantet et il écrivait pour Le Correspondant en 1858. Alors, il faut se garder d'illusions. Ce n'est pas une immigration composée exclusivement d'ouvriers qui peut imposer son génie national à la puissante civilisation américaine. Leurs enfants peuvent devenir les plus nombreux dans quelques États s'ils évitent la contagion des mœurs américaines. Mais à la troisième génération, si ce n'est à la seconde, ils ne parleront plus qu'anglais et seront purement américains. Donc, il a dit ça il y a plus de 100 ans. Et c'était faux.
Il s'est trompé.
En grande partie, sa prévision a été archi fausse. Moi, je voulais dire qu'il ne faut pas être négatif sur les Américains qui aiment la langue française, qui ont la langue française qui coule dans leur sang, qui ont un lien avec la culture et la France. Il faut les inviter à faire partie de cette grande famille qui est la francophonie mondiale. Et tous les gens qui vont là-bas devraient essayer de parler avec les, d'autres personnes qui ont des noms français et qui aiment la langue française.
Est-ce que, voilà mon souhait. Je vais être un peu direct, veuillez me pardonner. Est-ce que vraiment vous considérez que la France fait assez pour cette espèce de retrouvaille avec les... Vous pouvez répondre, vous savez, nous sommes des gens libres. Est-ce que vraiment la France fait assez dans ses retrouvailles avec les franco-américains?
Mais on ne peut pas pointer le doigt d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. On ne peut pas dire celui-ci fait assez, celui-ci ne fait pas assez. Je ne voudrais pas tomber dans une polémique et pointer du doigt parce que moi-même, j'ai bénéficié d'une bourse. Je suis là parce que j'ai eu une bourse du gouvernement français.
Vous êtes un exemple vivant.
J'ai eu une bourse du gouvernement français octroyée par le consul de France à Boston en 1977. Donc, je remercie la France et je suis devenue française par la suite. Mais je pense que mutuellement, les gens doivent voir ce qu'ils ont en commun. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble du point de vue culturel, du point de vue social, du point de vue communautaire, du point de vue des belles facettes de la globalisation, de la mondialisation.
Je tournerai autrement mon interrogation. Est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes franco-américains qui s'intéressent à la France aujourd'hui? Est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes Français qui s'intéressent à la franco-américanie?
Mais le problème, les jeunes Français ne connaissent pas beaucoup les franco-américains.
Donc, il y aurait là un travail à faire extrêmement intéressant pour beaucoup de jeunes Français qui souvent tournent un peu en rond.
Un travail d'information. Voilà.
Ça serait quelque chose.
C'est ce que j'essaie de faire très humblement.
Ça, c'est très important,
D'information, parce que ce sont les jeunes qui sont notre avenir. Et les jeunes vont pouvoir continuer toute cette francophonie qui évolue. Elle n'est pas exactement pareille qu'à l'époque de mon grand-père. C'est normal.
Mais imaginez que quelques dizaines par an, voire un peu plus, 100 ou 200 jeunes Français, Françaises, aillent dans des familles d'origine canadienne française pour passer un mois, trois mois, quatre mois. Ça, il n'y a peut-être pas des programmes qui sont suffisamment proposés,
aux
jeunesses.
Ou au sein des universités.
Donc, le tourisme a à faire quelque chose, le côté universitaire ou collège pourrait faire quelque chose. Donc, je crois que là, nous aurions quelque chose de facile à faire qu'il faudrait vraiment mettre sur pied. Nous en reparlerons.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie infiniment, cher Louise Péloquin, de nous avoir déjà bien éclairé sur un phénomène qui nous touche beaucoup et qui nous permet de tout à fait d'espérer dans l'avenir des développements tout à fait intéressants. Merci, à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Louise Péloquin a été mon invité aujourd'hui. Vous pouvez parfaitement retrouver gracieusement cette émission dans notre médiathèque. Merci, bonne journée.